tous, bienvenue sur Fréquence Mistral pour notre rendez-vous avec Monique Etienne pour nous parler de l'association France-Palestine Solidarité. Bonjour Monique, ravie de vous recevoir dans nos studios pour nous parler de cette association mais aussi de l'événement qui va avoir lieu ce vendredi 29 au mai.
Bonjour, oui, parler aussi de la Palestine, la situation en Palestine. Ce week-end prochain, donc, nous avons deux initiatives organisées par l'association France-Palestine Solidarité. D'abord une conférence débat qui aura lieu au mai à 18h30 au cinéma des Mets qui est en face de la mairie Boulevard de la République avec Stéphanie Latabdala. Elle est directrice de recherche au CNRS, elle est spécialisée du Moyen-Orient et des sociétés arabes et elle a surtout beaucoup travaillé sur l'enfermement. Et vous savez qu'aujourd'hui en Palestine, l'enfermement est une question fondamentale, aussi bien l'enfermement des populations dans des ghettos que l'enfermement en prison. Et puis elle a beaucoup travaillé aussi sur les femmes palestiniennes, aussi bien d'ailleurs du Fatah que du Hamas que de l'OLP, et sur la question du genre dans cette société. Donc ça sera effectivement très intéressant. Elle intervient souvent à France Culture ou dans d'autres radios. C'est quelqu'un de très intéressant et de très informée. Donc elle participe, elle coordonne aussi le programme de recherche Imagine, Alter Citoyen au Moyen-Orient, inventer les résistances en temps de violence. Donc on est tout à fait dans l'actualité. Et la deuxième initiative, c'est le lendemain, c'est le samedi 30 à Fort-Calquier au cinéma du Bourget. Le cinéma, en partenariat avec nous, passe le film No Other Land, dont on a parlé beaucoup puisqu'il est sorti en salle la semaine dernière, qui est réalisé par plusieurs réalisateurs, dont deux, un Palestinien et un Israélien, qui s'appellent donc Bassel Adra et Hamdan Balail, ainsi que Rachel Zor et Yuval Abraham. Donc ce sont des gens qui se sont retrouvés, qui sont des activistes. Le Palestinien, donc, lui, bien évidemment, il vit la réalité quotidienne de ce qui se passe dans le sud d'Hébron, à Massafer Yatta, où depuis 82, l'État d'Israël a annoncé qu'il allait annexer plusieurs milliers d'hectares de cette région et expulser des populations. Et il est passé aux actes, donc, à partir de 2022, 2021 même. L'arrêté a été prononcé. Et donc, les populations sont harcelées par les colons qui sont présents, par les militaires. Moi, j'y suis allée en 2022, d'ailleurs, à Massafer Yatta. C'est une lutte quotidienne. Donc, les populations palestiniennes résistent, comme elles peuvent, à cette violence des colons et de l'armée. Et donc ce film relate cette histoire, et c'est aussi l'histoire d'une rencontre entre le Palestinien et les Israéliens qui viennent aider et soutenir les Palestiniens, comme c'est le cas dans beaucoup de cas de lutte contre les annexions, contre le mur. Moi, j'ai participé aussi à beaucoup de rencontres où il y avait donc des protestations contre les annexions, où il y avait aussi beaucoup d'Israéliens qui venaient en solidarité. Donc c'est un film très important, et donc le débat sera animé par Mirai Sev, et moi-même, puisque nous sommes les coprésidentes de la FPS 04.
Coprésidente toujours, alors ça fait longtemps que vous êtes...
J'ai créé, avec une équipe, bien oui. Toujours évidemment, parce que nous travaillons ensemble, mais j'ai créé la FPS 04 en 2001, au moment de l'opération Rempart. Et ce qui d'ailleurs rappelle que les événements en Palestine et en Israël n'ont pas commencé le 7 octobre, comme on voudrait nous le faire croire, mais bien avant, puisque déjà en 2001, il y avait ce qu'on appelait l'opération Rempart, c'est-à-dire l'anéantissement de tout ce qui avait été construit par l'autorité palestinienne, par Israël, et entre autres à Khan Younes, et dans le sud de la bande de Gaza, et dans toute la Cisjordanie. C'est à ce moment-là qu'on a créé l'association, en 2001. Et c'est une association donc qui est très active dans le département et qui a toujours cherché en fait à rassembler le plus largement possible d'autres associations. Nous avons un collectif 04 qui rassemble des partis, les syndicats, des associations des droits humains et qui essaie de sensibiliser non pas comme on prétend dans les médias, nous ne sommes pas pro-palestiniens, nous sommes pour le respect du droit international qui est bafoué depuis de nombreuses années, on peut dire depuis 76 ans, par Israël et qui cherche à dénier les droits du peuple palestinien. Donc voilà, c'est ce qui nous anime. Nous avons agi aussi pour développer des projets qui pouvaient solidariser et faire comprendre les enjeux à la population, par exemple, de notre département. C'était le très beau projet de soutien à l'huile d'olive palestinienne, donc qui impliquait effectivement des oléiculteurs français de notre région et des oléiculteurs palestiniens pour développer une huile d'olive de qualité afin que les oléiculteurs palestiniens puissent vivre décemment de leur travail, sachant qu'Israël, à partir du moment où il a construit le mur de séparation et d'annexion de la Palestine, empêchait la commercialisation de l'huile d'olive, alors que le marché israélien était un des marchés principaux de l'huile d'olive palestinienne. Donc il fallait trouver d'autres débouchés et aider les Palestiniens à améliorer leur huile d'olive. Donc ça a été un des grands projets qu'on a menés. Et aujourd'hui encore, on vend l'huile d'olive de Palestine qui sont issues de ce projet, de coopératives, de production, qui ont été modernisées et qui ont permis effectivement que les Palestiniens s'emparent complètement de la filière oléicole dans cette Palestine qui était en train de se construire et qui malheureusement aujourd'hui est au bord du désastre et de la destruction. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui.
Donc qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour aider
On est un peu désespéré par la situation. Alors on ne peut pas dire désespéré parce que tant qu'il y a de la vie et tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Mais franchement, ce qui se passe aujourd'hui est quand même épouvantable sous les yeux de tout le monde. Tout le monde peut voir ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est vraiment l'écrasement d'un peuple et la volonté véritablement d'anéantissement de ce peuple. Quand on dit génocide, ce n'est pas un mot trop fort pour parler de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, parce qu'il faut imaginer. Quand on y est, moi j'y suis allée plusieurs fois, c'est une toute petite bande de terre de 45 km de long sur 10 km de large, qui est super peuplée, c'est la plus grande densité je crois au niveau de population mondiale, puisqu'il y a 2,3 millions d'habitants dans cette bande de terre, qui est soumise depuis 2007 à un blocus. Donc ça veut dire que déjà, la situation économique de Gaza était catastrophique, il y avait plus de 45% de chômeurs, il y avait vraiment un désastre économique et une absence totale de liberté, c'est-à-dire que c'est une prison à ciel ouvert. Et là, depuis le 7 octobre, c'est l'anéantissement, c'est-à-dire que ces 2 millions de 3 personnes n'ont absolument aucun moyen de sortir de cette enclave. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas, comme beaucoup de réfugiés, venir se réfugier ailleurs. Ils ne peuvent pas sortir de l'enclave, ils sont prisonniers de cette enclave. Ils se déplacent d'un point à un autre en fonction de ce que dit l'armée israélienne qui va pilonner tel endroit et tel endroit. Ils vivent dans des temps, dans des conditions épouvantables, avec l'hiver qui va arriver, la pluie, etc., sur les plages, dans des conditions infrahumaines. Il n'y a plus de santé, quasi tous les hôpitaux sont au bord de la détresse totale. Il y a des appels d'ailleurs permanents, que ce soit de l'OMS, que ce soit de Médecins Sans Frontières et de tous ceux qui interviennent là-bas et qui disent à quel point la situation est dramatique au niveau santé. On ampute les enfants, les adultes sans anesthésie. On ne peut imaginer ce que ça veut dire. Plus tous les risques d'épidémie. Il y a d'ailleurs eu des cas de polio. C'est pour ça qu'ils ont accepté quand même qu'il y ait des vaccinations. Les destructions totales de l'agriculture, quasi. C'est-à-dire qu'en fait, les Gazaouis sont soumis à la famine et au marché noir, puisqu'en fait, comme ils n'ont plus les produits, toute la destruction des terres agricoles entraîne la dépendance des produits agricoles qui viennent de l'extérieur à dose homéopathique, hein, puisqu'il y a très peu de camions qui peuvent rentrer. Et donc, vous imaginez bien qu'à partir de là, les spéculateurs spéculent et que pour les Palestiniens, c'est épouvantable. Les écoles, toutes les universités ont été détruites, alors que c'était des universités de renom, tous les centres culturels, toute l'archéologie, parce qu'on veut détruire jusqu'à la trace de ce qu'étaient les Palestiniens à Gaza. Donc je crois que vraiment, on atteint des niveaux d'horreur insupportables. Moi, je ne supporte plus d'ailleurs depuis le 7 octobre d'entendre tous les jours, et encore ce matin. Bon, et ça s'est étendu au Liban. Encore ce matin, ils ont bombardé Beyrouth pour récupérer un terroriste qu'ils n'ont pas eu d'ailleurs, soi-disant terroriste, hein, parce que du Hezbollah, ils ont tué 55 personnes. Comment on peut accepter ce qui se passe aujourd'hui et dire Israël a le droit de se défendre? C'est proprement insupportable, et c'est un deux poids deux mesures qui est insupportable pour les Palestiniens quand on entend très fort justement ce qu'on dit par rapport à l'Ukraine. Pourquoi ne dit-on pas la même chose par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, mais en Cisjordanie, parce qu'on ne parle pas de la Cisjordanie, mais la Cisjordanie aussi, c'est terrifiant ce qui se passe, parce que les colons ont le carte blanche, enfin, ils sont armés par d'ailleurs le ministre Ben-Gvir et le ministre Smotrich, qui d'ailleurs devait venir en France il y a peu de temps, et qui n'a pas pu venir parce que quand même il y a eu une mobilisation, non pas du gouvernement, mais des populations civiles en France, mais il prône ouvertement, en fait, l'annexion de la Cisjordanie, l'expulsion des Palestiniens, la disparition des Palestiniens. Donc on est vraiment... Et j'entendais tout à l'heure, parce qu'on parle aussi de la démocratie israélienne, j'entendais tout à l'heure qu'ils sont en train d'attaquer maintenant la presse. Moi, vous savez qu'il y a plusieurs... on en est, je crois que c'est à 167 journalistes tués à Gaza. Ce qui est d'ailleurs un chiffre énorme et le plus grand chiffre depuis très longtemps de journalistes tués dans un quand même silence assourdissant de nos médias la plupart du temps, et qui viennent, ils sont en train d'essayer d'attaquer le seul journal indépendant et libre en Israël qui critique la position israélienne, Haaretz. Donc je crois que même pour ceux qui soutiennent Israël, je pense que il serait temps vraiment de se dire que le meilleur soutien pour Israël aujourd'hui, ce serait de dire stop à ce gouvernement Netanyahou et ces fascistes qui sont au pouvoir actuellement, de leur dire stop, vous ne pouvez pas tout faire, vous êtes en train de détruire même l'idée même d'Israël en ce moment. Donc je crois que la meilleure façon d'aider, ce serait vraiment de dire cessez le feu, arrêtez le massacre, permettez effectivement aux Palestiniens d'avoir leur État. Parce que c'est le droit international. Rappelons quand même que 1947, l'ONU, dans la foulée de la victoire contre le nazisme, permet l'existence de l'État d'Israël à condition qu'il y ait deux États. C'était la création de deux États, l'État palestinien et l'État israélien. Cet État de Palestine n'a jamais vu le jour. Il serait temps que cet État existe. Or, la Knesset, encore récemment, a voté contre la reconnaissance de tout État palestinien. Et les mots ont un sens. Aujourd'hui, on ne parle plus de Cisjordanie en Israël, on parle de Judée-Samarie. C'est-à-dire, on reprend les termes bibliques pour justifier que les Palestiniens, ça n'existe pas. Et quand on veut absolument écraser un peuple nié, malheureusement, ça a quand même des relents dans l'histoire, et le nazisme, entre autres, par rapport aux Juifs. Quand on nie à ce point-là un peuple, c'est quand même absolument ahurissant. Et d'une part, et c'est voué à l'échec, parce que ce peuple, il sera toujours là, il existera toujours. Ils ne pourront pas éliminer 7 millions de Palestiniens. Donc, il y aura toujours, de toute façon, ce problème-là, tant qu'ils ne reconnaîtront pas les droits et la souveraineté du peuple palestinien. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on en est à plus de 43 000 victimes sur une population de 2,3 millions habitants. Vous imaginez la proportion, si on le faisait... avec la France, ça ferait plusieurs millions de morts de la guerre. Et ça, c'est 43 000 officiels. Mais il y a la revue Lancet, qui est une revue scientifique, qui disait début octobre qu'il y avait 186 000 Palestiniens qui étaient morts à Gaza. Et il y a tous ceux qui sont dans les ruines. Parce que là, je ne veux pas rentrer dans quelque chose de terrifiant, mais il y a des témoignages absolument terrifiants sur les cadavres qui sont dans les rues, les chiens qui peuvent les dévorer. Enfin, c'est une situation ahurissante. Dont deux tiers, parce que la rhétorique d'Israël et son récit, c'est de dire, nous avons subi le plus grand pogrom depuis la Shoah, le 7 octobre. Deux, c'est tous ceux qui critiquent Israël, c'est de l'antisémitisme. Et trois, on a le droit de se défendre. Et donc, surtout, depuis d'ailleurs 2001, c'est d'assimiler toute résistance au terrorisme. C'est-à-dire qu'en fait, après les Twin Towers aux États-Unis, il y a eu tout un mouvement qui a voulu réduire tout ce qui était les résistances populaires et les luttes de libération nationale au terrorisme. Tout de suite, Israël, le gouvernement israélien s'est mis dans cette logique-là pour dire la résistance palestinienne, c'est du terrorisme. Donc, à partir de là, tout est justifié. Et on entend tous les jours à la radio, selon Israël, eh ben non, ils ont visé des terroristes, sauf que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire 70% des victimes sont des femmes et des enfants. Donc on en est à 18 000 enfants qui ont été tués à Gaza, plus tous les amputés, plus tous les enfants qui sont orphelins. Il y en a des milliers. Donc il y a 97 350 blessés. Ça, c'était pour le 7 octobre. 3500 amputations. Et en Cisjordanie, il y a un enfant tué tous les deux jours. Et il y a déjà plus de 760 morts et plus de 6500 blessés. Plus de 6000 déplacés à l'intérieur, toujours, de la Cisjordanie. Donc, on voit bien plus. Alors, on peut rappeler les prisonniers. Il y a aujourd'hui plus de 10 000 prisonniers qui sont... Dans des situations, moi je travaille sur les prisonniers depuis très longtemps, puisque ma première mission en Palestine c'était 1993, pendant la première intifada. On allait assister les prisonnières palestiniennes. Tous les prisonniers, il y a plus de 70% des familles palestiniennes qui ont connu la prison ou qui ont un proche qui a connu la prison en Palestine. Tous témoignent d'aujourd'hui qu'ils n'ont jamais vu un tel niveau de torture, de violence, d'humiliation. On a plusieurs amis que j'ai rencontré d'ailleurs en 2022 avec Mirai Sev quand on était en mission, qui ont été emprisonnés. Aujourd'hui, il y a la femme d'un ami de Naplouse qui est emprisonnée en détention administrative, c'est-à-dire sans jugement et sans qu'on puisse accéder à leur dossier, tout simplement parce qu'elles défendent les droits des Palestiniens et qui sont traitées comme des animaux. D'ailleurs, ils le disent, le fameux ministre Yoav Galan, qui est condamné, qui a un mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale, il a dit, de toute façon, les Gazaouis, ce sont des animaux, on les traitera comme des animaux. Et les Palestiniens répondent, on aimerait bien être traités comme des animaux parce que c'est pire, on est pire que des animaux. Donc je crois qu'il y a toute cette violence-là qui est insupportable, qui est dénoncée par le droit international parce que, on nous dit le droit international est impuissant. Oui, il est impuissant. Pourquoi ? À cause du Conseil de sécurité. Il y a encore, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, les États-Unis ont encore mis leur veto à la volonté de cesser le feu par rapport à Gaza. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, Israël est soutenu, malgré ce génocide qui est en cours, est soutenu par les grandes puissances. Si aujourd'hui l'Amérique arrêtait ses ventes d'armes, il y aurait en 8 jours, ils seraient obligés d'arrêter parce que ce sont les armes américaines qui tuent aujourd'hui. Et des armes technologiques très avancées. Il y a une vidéo qui a été prise au moment de l'assassinat de Yahya Sinwar, le responsable du Hamas, dont on dit qu'il serait celui qu'aurait pensé le 7 octobre. Que d'ailleurs nous condamnons. Nous condamnons les crimes de guerre qui ont été commis le 7 octobre, c'est pas la question. Mais on voit qu'en fait, il est tué par drone. Ce sont des drones qui ciblent et qui viennent d'ailleurs achever les blessés. En ce moment, il y a des tas de témoignages qu'on peut voir partout, qui sont même relayés d'ailleurs par les soldats israéliens eux-mêmes, parce qu'ils applaudissent à tout ça et ils le montrent sans aucun problème. Donc on voit à quel point ce conflit s'arrêterait si les grandes puissances prenaient leurs responsabilités et arrêtaient les ventes d'armes, dont l'Amérique. Or, on voit Biden, par exemple, aurait pu, là, pendant les 2 mois, avant que Trump prenne le pouvoir, parce qu'on imagine ce que ça peut être une fois que Trump aura repris les rênes, aurait pu prendre justement des décisions courageuses pour arrêter le conflit. Ben, au contraire, il le prolonge et il le renforce. Donc, malgré ça, donc je disais que le Conseil de sécurité est paralysé, mais par contre, l'ONU existe. Et donc, il y a eu d'importantes décisions qui ont été prises, aussi bien par la Cour internationale de justice, la CIJ, qui est quand même une instance de l'ONU qui est imparable, qui a demandé à Israël dès le printemps dernier de faire en sorte que tout risque génocidaire, donc il a employé le terme, soit arrêté et demandé à ce que justement les puissances de la communauté internationale fassent en sorte que ce génocide ne soit pas rendu effectif. Israël n'en a pas tenu compte. En juillet dernier, la CIJ a encore décidé et pris un arrêté comme quoi la colonisation des territoires palestiniens était illégale, qu'Israël devait se retirer des territoires occupés dans un plus bref délai, je crois qu'ils ont même parlé d'un an, que la colonisation était illégale, que l'apartheid, il y avait bien un régime d'apartheid contre les populations palestiniennes. Cette décision de la CIJ, cet arrêté de la CIJ a été repris par l'Assemblée générale de l'ONU, qui demande aux États membres de l'ONU de faire en sorte qu'il n'y ait plus de complicité avec l'occupation israélienne. Donc tout cela, ce sont des éléments de droit sur lesquels nous, on s'appuie pour dire qu'il faut arrêter. Et la dernière chose, la semaine dernière, c'est la confirmation donc par le TPI, le Tribunal pénal international, des mandats d'arrêt contre Netanyahou et contre Yoav Gallant, qui d'ailleurs depuis a été limogé, qui était le ministre de la Défense israélienne, qui a été limogé depuis pour être remplacé par encore un plus ultra. Mais c'est tout à fait significatif. Il y avait aussi trois personnes du Hamas qui étaient sous mandat d'arrêt. Il y en a deux qui ont été tués, puisque Ismaël Haniyeh a été tué d'ailleurs en Iran, violation de la souveraineté de l'Iran. Et ben, Yahya, qui a été tué, Sinoir, qui a été tué aussi, je vous le disais, à Gaza, il n'y a pas longtemps. Et le troisième, qu'on avait dit mort, et qui ne serait pas mort, on ne sait pas. Voilà. Et vous voyez la levée de bouclier, aussi bien de Biden, qui dit que c'est inadmissible, qu'on lance un mandat d'arrêt contre Netanyahou, alors que c'est un criminel de guerre, qu'on le veuille ou non. Si on regarde ce qui se passe, ce sont des crimes de guerre, ce sont des crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Nous, on le dit, en tous les cas, volonté génocidaire, c'est évident. Bien sûr, pour les gens, le génocide, c'est la Shoah. Alors, bien évidemment, on n'en est pas au niveau de la Shoah. C'est pas la question. Mais crime de génocide, c'est toute volonté de s'attaquer à un peuple dans son ensemble et de vouloir sa destruction en l'affamant et en l'empêchant de vivre. Donc on est vraiment dans cette logique-là en ce moment en Palestine, contre les Palestiniens. Et je ne parle pas du Liban, bien évidemment, où il y a violation de la souveraineté du Liban. On en est à plus de 2500 morts. On voit les destructions, mais c'est faramineux, aussi bien dans les villes de Beyrouth, la capitale du Liban quand même, et la volonté effectivement de reprendre le sud du Liban, parce que ce qui est quand même incroyable, c'est qu'ils le disent, ils ne s'en cachent pas. Aussi bien le ministre de la Sécurité nationale, Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, que Netanyahou ne s'en cachent pas de dire qu'ils veulent réoccuper le Sud-Liban, qu'ils veulent aller de la mer au Jourdain et plus loin même. Netanyahou a montré une carte à l'ONU, où il n'y a plus du tout, la Cisjordanie n'existe plus, toutes les frontières sont abolies, et ça va même jusqu'à la Syrie et jusqu'à une partie de l'Irak. Enfin, on est dans une folie qui veut d'annexion et de colonisation sans limite, et je crois qu'il est temps d'en finir avec l'impunité d'Israël et de mettre des sanctions, et donc la France. Parce que bon, Macron, effectivement, a une position plus nuancée, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement? C'est toujours pareil. C'est-à-dire, pourquoi la France ne reconnaît pas l'État palestinien, alors que, par exemple, l'Espagne l'a reconnu, et il y a plus de 194 pays qui l'ont reconnu. Pourquoi les ventes d'armes? Bon, alors, on n'est pas les principaux ventes d'armes à Israël, mais on vend des composants électroniques, etc., qui servent pour les armes. Donc il faut arrêter cette hypocrisie et puis surtout imposer des sanctions. Et on a les moyens d'imposer les sanctions. 40% des échanges commerciaux d'Israël se passent avec l'Europe, l'Union européenne. Ils ont des accords d'association très favorables, avec des libertés de pas taxer, etc., etc. Ces accords d'association stipulent, par leur article 2, que si Israël ne respecte pas les droits de l'homme, ces accords sont suspensifs. Pourquoi ne suspendons-nous pas, l'Union européenne ne suspend pas ces accords d'association? Ça ferait, à mon avis, il y aurait un impact très fort par rapport à Israël, qui est quand même dans une situation aussi économique, bien évidemment, avec cette guerre très, très, très compliquée. Et s'il n'y avait pas l'aide aussi par milliards de dollars américaines, Israël serait très mal aussi au niveau économique, même si ils ont toute une industrie de pointe qui est réelle. Mais il n'empêche que la situation des Israéliens est aussi très difficile. Donc je crois qu'il y a des moyens de peser. Ces moyens de peser, ça c'est... Alors vous me demandiez ce qu'on peut faire. Ben, nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire informer, sensibiliser, faire pression sur nos élus. Toutes les semaines, à Manosque, le mardi, il y a un rassemblement porte-sonnerie, tous les mardis à 18h, pour protester. On est présent partout où on peut. On développe aussi de la solidarité. On envoie, bien évidemment, des fonds de solidarité aux associations avec lesquelles on travaille, palestiniennes, donc. Bon, j'ai pas parlé non plus de quelque chose de très important. C'est la volonté d'Israël de détruire les organisations internationales, dont l'UNRWA. Et l'UNRWA, c'est l'organisme qui a été créé en 1947 pour l'assistance aux réfugiés palestiniens, puisque ce qu'on appelle la Nakba en 1947-1948, de plus de, à l'époque, 700 000 Palestiniens qui ont dû quitter la Palestine et qui sont toujours réfugiés. L'UNRWA est essentielle pour la survie de tous ces gens-là. Et 70% de la population de Gaza est réfugiée. Donc l'UNRWA, s'il n'y a plus d'UNRWA, les gens vont crever. Donc ce n'est pas à hasard si Israël s'attaque à l'UNRWA. Et c'est parce que derrière cela, il y a le péché originel d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, le péché originel d'Israël, ce sont ces réfugiés qui sont la preuve vivante qu'ils ont expulsé un peuple pour prendre la terre de ce peuple. Et là, ils ne veulent absolument pas le reconnaître. Et donc, c'est pour cela aussi qu'ils s'attaquent principalement à l'UNRWA et aux camps de réfugiés. Par exemple, en Cisjordanie, les camps de réfugiés de Jénine, de Tourkarem, de Naplouse sont des cibles permanentes avec des incursions de l'armée extrêmement violentes où ils détruisent toutes les canalisations d'eau, l'électricité, ils enfoncent les maisons, ils arrêtent les populations, ils tirent dans les gens. Ce sont des réalités qu'on ne peut pas nier et qui, malheureusement, doivent cesser. Pour qu'elles cessent, il faut un rapport de force. Il faut donc qu'on arrive à faire pression. Malheureusement, il faut quand même rappeler qu'en France, on est victime aussi d'une volonté de nous faire taire, entre autres en nous traitant et ou nous assimilant à l'antisémitisme. Et là, c'est quelque chose, effectivement, que nous, on dénonce, parce que nous n'avons absolument rien d'antisémite. Moi, je peux dire que j'ai commencé mon engagement militant sur la Shoah. Je suis une enfant de l'après-guerre et ça a été ma première sensibilisation. Donc, se faire traiter d'antisémite, vraiment, c'est quelque chose qui, non seulement nous révolte, mais moi, me révulse. Et je pense que c'est terrible de vouloir assimiler la lutte pour la justice et la défense des droits des Palestiniens à un État, à de l'antisémitisme.
Monique Etienne, merci pour toutes ces informations précieuses de la situation en Palestine et pour l'annonce donc de ces deux événements. Vous faites régulièrement des conférences sur ces sujets douloureux. Là, ça se passe donc au mai.
Les mai vendredi 29.
Vendredi 29 à 18h30.
Au cinéma des mai, donc la conférence débat avec Stéphanie Latabdallah. Et donc le lendemain, le samedi 30, à 18h30 aussi au cinéma Le Bourget à Fort-Calquier avec le cinéma Nozerland, qui est un très bon film qui a été d'ailleurs primé à Berlin, au festival de Berlin. D'ailleurs, il y a eu aussi toute une campagne à ce moment-là du fait que ce soit un film palestinien qui ait été primé. Et donc il y aura un débat animé par Mireille Sev et moi-même. Voilà, et puis si vous voulez nos coordonnées, vous pouvez donc aller sur le site afps04.org. Et il y a aussi un Facebook, AFPS04, Instagram, France-Palestine-Solidarité-04. Et puis, vous pouvez nous contacter sans problème. Voilà.
Et puis, alors, il y a des rassemblements tous les mardis soirs.
Tous les mardis soirs, à Manosque, à 18h, qui sont organisés par un regroupement, hein, c'est pas que la FPS, il y a le collectif Palestine qui soutient, mais c'était un regroupement à l'initiative de la population de Manosque, mais tous les mardis, voilà. Et puis, tenez-vous au courant des initiatives que nous pouvons prendre, nous sommes présents un peu partout. Nous vendons aussi de l'huile d'olive.
Ah oui,
nous
alors où est-ce qu'on la trouve alors?
Eh bien, pareil, vous prenez contact avec la FPS.
Voilà.
Et puis, il y aura aussi, certainement, sur les marchés de Noël, on va faire une présence avec des céramiques palestiniennes. Vous savez que l'artisanat palestinien est très vivant et très riche. Il faut l'encourager et le soutenir.
Monique Etienne, merci. Et puis, une belle journée malgré tout. Rendez-vous donc au mai, le vendredi 29 novembre, salle de cinéma, à 18h30 pour cette conférence débat avec Stéphanie Latté à Abdallah. Merci.
Merci.
Au revoir.